Un air d'actu avec Serge Carrel.
Il vient de publier un livre de méditation, Un mois pour aimer l'essentiel, 30 jours pour trouver ta joie en Dieu. Gilles Geyser, pasteur dans l'église évangélique de Chablecroix-Aigle, est notre invité aujourd'hui pour parler de ce parcours méditatif et de plusieurs autres choses. Gilles Geyser, bienvenue.
Merci.
Alors, merci d'être en direct dans le studio de Radio Air pour évoquer la sortie de votre livre, Un mois pour aimer l'essentiel. Alors, précisons-le tout de suite, le mois dont il est question ici n'est pas le mois de notre calendrier, mais le mois MOI, pronom personnel.
Exactement, oui.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez publié ce livre ?
Alors, c'est une bonne question. Pourquoi surtout, je commence à réfléchir par rapport à la notion d'essentiel. J'ai l'impression parfois qu'on passe juste à côté, qu'il y a plein de choses qu'on vit, que ce soit dans notre vie de manière générale, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à programmer, voilà, que ce soit dans notre travail ou peut-être même dans notre vie de famille, enfin de manière générale. Et c'est vrai qu'il y a une frustration en se disant, mais est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de l'essentiel ?
Donc vous êtes pasteur dans l'église de Chablecroix à Aigle, une église membre de la FRAE, la Fédération romande d'églises évangéliques. Est-ce que quand vous parlez de ce souci de l'essentiel, c'est justement par rapport à un certain souci pastoral où finalement les pasteurs auraient tendance à faire beaucoup de choses et puis peut-être à oublier ce qui devrait être au cœur de leur vocation, au cœur de leur prédication ?
Alors, je ne sais pas si ça concerne que les pasteurs. Ça peut, mais je pense que ça concerne chacun de nous, quoi, chacune de nos vies. C'est tellement vite fait de passer à côté de l'essentiel. C'est tellement vite fait d'avoir plein de choses à faire, plein de choses à programmer, comme j'ai dit avant, et puis passer à côté de l'essentiel de ce que Dieu nous demande, en fait.
Alors, concrètement, cet essentiel pour lequel vous vous battez, pour lequel vous avez écrit ces 30 méditations, quel est-il ?
Eh ben, c'est exactement la question que les disciples ont posée à Jésus à un moment donné, en disant, mais c'est quoi le plus important ? Quel est le commandement le plus important ? Puis Jésus répondra, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et puis j'ai vraiment l'impression que là, l'essentiel, Jésus nous le présente. On dit, bon, l'essentiel, il est là. Et puis j'avais à cœur de méditer ça sur 30 jours. On avait à cœur de faire quelque chose qui soit vraiment ponctuel dans le temps. On sait quand on commence, on sait aussi quand on finit. Donc c'est 30 méditations dans ce livre. 30 petites méditations aussi avec des réflexions, avec un encouragement. Mais pour chaque fois réfléchir, aller un pas plus loin sur, ça veut dire quoi aimer Dieu de tout mon cœur, ça veut dire quoi aimer Dieu de toute mon âme, de toute ma pensée, enfin voilà, et puis c'est petit à petit, voilà, exactement, et après aimer son prochain comme soi-même. Donc c'est un parcours, on fait pas du sprint, on fait de la marche, et on durant ces méditations on prend chaque fois le temps de méditer le paysage, de bien voir là où on est en train de poser les pieds et puis de se réjouir. Donc c'est pas un livre à lire en une traite, c'est vraiment un livre à vivre en un mois.
Alors c'est vrai que dans les églises évangéliques actuellement, il y a beaucoup de choses autour de l'essentiel, autour de 30 ou 40 jours, etc. Donc vous vous inscrivez vraiment là dans un trend, et maintenant que un livre est publié avec cette trentaine de méditations, vous allez frapper fort le vécu concret des églises évangéliques francophones.
Ah, ce serait super. Ce serait vraiment super. C'est un des rêves. Que ce mois pour aimer, devienne pas seulement un projet qu'on a eu nous dans notre église, mais qu'il devienne un projet qui touche plusieurs autres églises. C'est quelque chose d'assez facile à prendre. Le livre est là. Nous, on en a fait chaque fois qu'on fait un mois pour aimer.
Oui, donc, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que vous avez continué dans la lancée, donc exactement. Ça a plutôt bien marché.
Oui.
Et vous venez de terminer votre troisième édition de Un mois pour.
Un mois pour aimer. Donc ça devient en fait une série, Un mois pour aimer. En 2019, Un mois pour aimer l'essentiel, qui est sorti en livre. L'année passée, Un mois pour aimer Dieu. Et puis cette année, Un mois pour aimer l'Église. Et on a déjà le thème de ce qu'on va faire l'année prochaine. Ouais.
Et puis, ce sera ?
Je pense que ce sera Un mois pour aimer la Bible.
Excellent. Donc, si on revient un petit peu à ce premier livre qui sort, Un mois pour aimer l'essentiel, finalement, on se focalise sur la dynamique d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Pour vous, aimer Dieu, c'est quoi ?
Alors, pour moi, Je reprendrai une citation de John Piper que j'aime beaucoup, qui dit « Aimer, c'est trouver sa joie en celui qu'on aime. » Et je trouve que ça va bien plus loin que servir ou que obéir à Dieu. Aimer, c'est réellement... C'est là que c'est défiant, c'est de trouver sa joie dans celui qu'on aime. Trouver sa joie dans notre pensée, dans notre âme, dans notre action. Trouver sa joie en Dieu. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que ça va plus loin que voilà, obéir ou bien écouter et puis faire.
Vous cassez une certaine logique légaliste, on pourrait c'est dire, qui prévaut. Finalement, la foi se résumerait à un comportement.
Exactement. Si c'est qu'un comportement, alors c'est pas drôle. C'est pas joyeux, c'est pas vivant, c'est juste une obéissance. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'obéissance dans la foi, il y en a, mais c'est une obéissance qui est joyeuse. Et en fait, je trouve que c'est vite fait dans la vie de foi, mais peut-être que dans la vie de tous les jours, de perdre la joie. Et je pense que dans aimer, il y a trouver sa joie dans celui qu'on aime. Et donc, trouver sa joie en Dieu de toute sa pensée, ça veut dire quoi que, comment je peux penser Dieu et que ça me réjouisse? Et je pense que Dieu a créé l'être humain de manière à ce que quand on pense à lui, ou quand on suive ce qu'il nous dit, ou quand on chante, qu'il y ait de la joie qui vienne. S'il n'y a plus de joie, alors ça me pose question. Ça ne veut pas dire que ça doit être que joyeux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où peut-être que c'est difficile, où ça demande de Ça me demande une concentration, ça me demande une énergie, ça me demande un effort. Peut-être même que des fois, ça me demandera même des douleurs ou des difficultés. Mais si on perd la joie, alors je pense qu'on est en train de perdre l'amour.
Ce qui est intéressant, c'est que dans cette série de méditations, il y a un jour où vous mettez, en tout cas particulièrement, en avant l'importance d'une rencontre personnelle avec Dieu, ouais, et du fait de réaliser que Dieu nous aime profondément. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur de votre foi, au cœur de la proclamation de l'Évangile, à votre sens?
Oui. C'est le commencement, et puis c'est le socle. C'est-à-dire que toute ma foi continue sur ce socle-là. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Je crois que c'est sur ce jour-là, quand je dis, mais c'est ton Dieu. Il faut que ce Dieu devienne personnel. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'il devient ton Dieu, c'est comme si c'était ton jouet, ou que c'est toi qui prends autorité sur ce Dieu-là. Non, mais c'est un ton de relation. C'est un ton relationnel. Tout d'un coup, ce Dieu-là devient mon Dieu.
Et cette rencontre personnelle avec Dieu, cette rencontre avec son amour, c'est aussi quelque chose qui est constitutif de votre parcours de foi?
Oui. C'est constitutif de mon parcours de foi, c'est constitutif de mes prédications, de mon partage. C'est-à-dire que je ne peux pas aimer Dieu si je n'ai pas d'abord compris combien il m'aime. Parce que sinon, si j'essaie tout seul d'aimer, si je dois juste obéir à ce commandement, tu aimeras, ben en fait, je n'y arrive pas. Ce n'est pas possible de dire, mais tu ne peux pas m'obliger à aimer quelqu'un. Si l'amour, c'est juste le fruit d'une obligation, d'un ordre, ben, on n'est pas dans la relation, on est à l'armée. Et donc, oui, il y a un ordre, mais cet ordre, j'arrive à le faire, j'arrive à aimer seulement quand j'ai compris d'abord combien je suis aimé.
Et à titre personnel, vous vous rappelez de ce moment où, pour la première fois peut-être, vous avez réalisé l'ampleur que l'amour de Dieu peut constituer, ou l'ampleur, ouais, de cet amour de Dieu pour vous dans votre vie?
Alors, j'ai pas un souvenir hyper précis là. Je pense qu'il y en a, il y a plusieurs fois dans ma vie où, de nouveau, c'est cet amour pour moi, parce que j'ai la vie de foi, c'est quelque chose que j'ai vécu depuis que je suis vraiment jeune, quoi. Mes parents étaient engagés dans la foi, ils m'ont parlé de Dieu, donc j'ai pas un moment moi dans ma vie où je me dis, tiens, là, j'ai vraiment compris, j'ai vraiment saisi. Mais plusieurs fois, et je demande à ce que ce soit renouvelé.
C'est effectivement un processus aussi. On ne vit pas finalement d'une découverte de cet amour de Dieu une fois, mais c'est quelque chose à réexpérimenter, à se réapproprier, oui, régulièrement.
Oui. Ouais.
Vous mettez aussi en avant, on le sent dans votre livre, une sorte de petite polémique à l'endroit de trop de connaissances. qui, quelque part, viendrait un peu malmener la foi et qui, quelque part, s'épuiserait dans le monde de la connaissance et entrerait pas suffisamment dans une dynamique pratique. En tant que pasteur, c'est quelque chose contre lequel vous luttez. Vous trouvez que, finalement, les chrétiens d'aujourd'hui sont très marqués par la connaissance et, finalement, peu engagés dans une implication pratique de cet amour de Dieu qui passe dans l'amour du prochain ?
Je ne sais pas si c'est en tant que pasteur ou en tant que juste Gilles Geyser. Je pense que c'est tellement plus facile de croire que, qu'on a fait ce qu'il fallait quand on a compris ou quand on sait. Et on aime bien d'ailleurs dire cette phrase « Ouais, je sais. Ouais, je sais. » Mais ça m'énerve, moi, quand nos enfants ou bien d'autres personnes disent « Ouais, je sais. » Mais non, mais la question, ce n'est pas « Est-ce que tu le sais ?» La question, c'est « Est-ce que tu le vis ?» Et je pense que c'est tellement important de se dire, ok, maintenant, est-ce que ce que je sais, je le vis? Et si je ne le vis pas, parce que ça arrive, eh ben, comment je fais pour mieux le vivre? Et donc, c'est plutôt ça, ce n'est pas une polémique, je n'ai pas l'impression. Non. Moi, j'aime apprendre, j'aime qu'on grandisse dans notre connaissance. Je pense qu'on a besoin de grandir. Je n'oppose pas du tout la connaissance et la foi. Je pense qu'on a besoin de grandir dans notre connaissance de Dieu, puis d'autres sujets. Mais si ça reste que de la connaissance, alors oui, ça, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel.
Et l'essentiel étant la mise en pratique concrète de cet amour que Jésus nous invite à témoigner autour de nous.
Oui, et puis à recevoir, à voir comment est-ce que l'amour de Dieu manifesté magnifiquement par Jésus-Christ, son ministère et son œuvre, comment cet amour-là transforme ma vie, comment est-ce que ça me donne de la valeur, même si je suis en train de pas réussir soit mes études, soit d'être au chômage, soit de vivre des moments douloureux, des épreuves de vie, la maladie ou la maladie de certains enfants ou ce genre de choses. Comment est-ce que l'amour de Dieu aujourd'hui réel peut remplir mon être, me donner de la valeur, même si ce que je suis en train de traverser ne m'en donne pas ou même donne l'impression que je suis en train d'être effacé sur ce monde. Mais je ne suis pas effacé dans la pensée de Dieu.
Et on retrouve là toujours cet ancrage dans une expérience concrète de l'amour de Dieu qui, quelque part, devient une sorte de carburant fondamental pour la vie de foi. Ouais. Ce qui m'a frappé en parcourant votre livre, c'est qu'à un certain moment, vous proposez de réaliser un diagramme camembert, ces fameux camemberts que l'on voit dans les ouvrages qui présentent des résultats un petit peu statistiques. Et vous nous proposez d'utiliser ce camembert pour essayer de voir un peu ce qui habite nos pensées durant les 6 derniers mois. Alors, concrètement, c'est un moment aussi important de ce parcours méditatif que de réaliser ce qui habite notre monde intérieur.
Mais je pense que aimer Dieu de toute sa pensée, si Dieu nous demande de l'aimer de toute notre pensée, déjà, ça veut dire que notre pensée est créée pour aimer Dieu. Donc, elle va se réjouir de penser Dieu, de réfléchir à Dieu. Et je me rends compte que dans ma vie, si je prends, si je dois faire un diagramme camembert de tout ce qui habite ma pensée, il y a des soucis, il y a des inquiétudes, il y a le travail, il y a des conflits, il y a des projets, il y a des vacances et tout ça. Mais, et Dieu dans tout ça, quelle part je lui laisse ? Et aimer Dieu de toute ma pensée, concrètement, comment est-ce que je peux lui grandir la part de Dieu, ou alors que sa présence soit présente dans tous les autres petits camemberts de ma vie. Que si j'ai un conflit, je dis « Ok, mais comment est-ce que je peux t'amener dans cette pensée-là ? Si j'ai des projets, comment je peux t'amener dans cette pensée-là ? » Pour que ma pensée entière puisse aimer Dieu.
Donc, finalement, au travers de ce livre de méditation, vous essayez de montrer aux chrétiens d'aujourd'hui que l'horizon de leur foi, c'est vraiment à la fois d'avoir cette dimension de relation à Dieu qui, en même temps, féconde le quotidien et permet d'inscrire l'amour agapé, l'amour que Jésus nous invite à témoigner, dans notre quotidien et dans la réalité sociale et politique de ce monde.
Oui. C'est juste. Je ne sais pas quoi dire d'autre que oui.
Alors, on va se prendre une petite pause musicale avec une célèbre chanson de Florent Pagny, « Savoir aimer ».
« savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir, savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Savoir attendre, goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, tant on ne l'attendait plus, se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire.
Merci à Florent Pagny pour cette magnifique chanson « Savoir aimer ». On est ce matin en direct en compagnie de Gilles Geyser, qui a fait le déplacement depuis Aigle pour nous parler de son livre, son dernier livre intitulé « Un mois pour aimer l'essentiel ». Alors Gilles Geyser, ce qui m'a frappé à la lecture de votre livre, c'est le nombre de citations de Martin Luther King, donc ce fameux pasteur baptiste noir américain, grand défenseur des droits civiques pendant les années 60. En quoi est-il important pour vous?
Alors, c'est vrai que son livre, je crois, Le Courage d'aimer.
La Force d'aimer.
La Force d'aimer, merci. M'a beaucoup touché dans ces dernières années. Et puis, alors, c'est sûr que c'est une figure marquante, c'est une figure qui est inspirante. Je ne connais pas bien toute sa vie, je ne suis pas un connaisseur de Martin Luther King. Ce que je vois, c'est que sa foi et ses convictions ont amené un changement dans la société pour amener plus de justice. Et d'une manière qui n'a pas utilisé la force ou la violence. Et alors là, ça me parle parce que j'ai des origines anabaptistes, c'est-à-dire vraiment le fait de... Dans la pensée anabaptiste, il y a vraiment cette non-violence qui est là.
Ce pacifisme.
Voilà, on est là pour amener la paix. Et puis, donc ça me touche. Je pense que ça me touche au-delà de ce que je peux imaginer. En tout cas, voilà, Ça me fait plaisir de lire ce genre de récits, de livres. Et puis, ce qui me touche aussi, c'est la force de caractère qu'a eu cet homme pour dire, voilà, je vais me battre pour ça, je vais me battre pour cette justice. Alors, ça m'inspire, je ne dis pas que j'en suis là, mais ça m'inspire pour dire, ben, y a quelque chose à changer. Ça peut être dans mon quartier, ça peut être l'injustice. Il n'y a pas besoin qu'elle soit dans toute la société. Ça peut être juste là où je vis, à mon poste de travail, ou dans ma famille, mais comment est-ce que je peux me battre pour qu'il y ait plus de justice et d'une manière qui n'amène pas de la violence, mais qui au contraire amène la paix.
Et là, on retrouve un thème qui vous est cher, c'est celui de la guérison, de ses pensées, de son âme. Et c'est tout un travail un peu de relation d'aide que vous êtes amené aussi à promouvoir et à faire dans le cadre de vos activités pastorales.
En tout cas, par rapport au fait d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, sa pensée, je me rends compte que j'arrive pas, moi, si dans mon âme je suis en conflit ou j'ai la haine contre quelqu'un, ça m'est arrivé d'avoir pendant plusieurs mois là, vraiment quelqu'un en haine. C'est impossible d'aimer Dieu avec une âme dont une partie est haineuse. Donc, c'est aimer Dieu de toute son âme, c'est aussi dire à Dieu ou se rendre compte que, en fait, mon âme a besoin d'être guérie. Avant de pouvoir t'aimer, ou pour pouvoir t'aimer de toutes mes émotions, il va falloir que tu les guérisses. Alors, je te les amène, tu les guéris. Ou le fait de les amener à Dieu déjà, de dire, voilà, ben, en fait, j'ai vraiment ce problème-là, avec ce conflit avec telle et telle personne, ou ça peut être dans mes pensées aussi, voilà, un énervement. Eh bien, le fait d'amener ça à Dieu, déjà, ça amène de l'apaisement. Il est capable de guérir par le pardon, tout ça. Et ça fait que je peux aimer ce Dieu-là, et en même temps, ce commandement devient une envie. Parce que je me rends compte que quand j'amène mon cœur vers Dieu et que j'ai envie de l'aimer de tout mon cœur, ben en fait, mon cœur lui-même est guéri par l'obéissance à ce commandement. Donc je trouve que c'est ça qui est beau. Ce n'est pas juste un ordre qui est donné, mais c'est une guérison.
Il y a une dimension thérapeutique dans ce face-à-face avec le Seigneur, dans ce face-à-face avec Dieu.
Oui, et ça touche notre cœur, ça peut toucher notre pensée, ça touche nos forces aussi. Donc un mois pour aimer, le but de ce livre, un mois pour aimer, l'essentiel, c'est de nous rappeler qu'en fait, on a tellement besoin de cette relation avec Dieu et qu'il est capable de nous guérir bien au-delà de ce qu'on aurait pensé à la base. Parce que dans ce face-à-face, il y a un bien-être, il y a une paix, il y a une joie, il y a une force qui est apportée, qui nourrit nos vies. Et on en a tellement besoin.
Gilles Gazer, on se rend bien compte que si aujourd'hui ce parcours méditatif qui a eu son lieu premier dans votre église du côté d'Aigle, eh bien il est publié aujourd'hui, c'est que quelque part il a intéressé, il a séduit une maison d'édition. Mmh. Est-ce que vous avez eu des échos à un tel parcours dans d'autres lieux que les lieux d'église ? Je sais que vous êtes aumônier dans une maison pour adolescents en difficulté. Est-ce que vous avez eu l'occasion avec ces ados de parler un peu de ce parcours, de risquer un encouragement peut-être à suivre ce que vous mettez en place ? Ou bien c'est suffisamment compartimenté et difficile pour que finalement les deux choses ne se mêlent pas trop ?
Non, c'est une bonne réflexion. Je pense que c'est un parcours que je pourrais vraiment proposer n'importe où. Je le propose à la fin de mes spectacles, par exemple, ceux qui veulent aller plus loin dans la réflexion que j'amène.
Donc, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes aussi un stand-upper par ailleurs. Donc, vous faites régulièrement des one-man shows avec un spectacle qui s'intitule Stand-up engagé.
Oui, donc je le propose. Je ne pense pas que c'est un livre qui doit rester cantonné à des églises. J'ai envie de le proposer à tous mes amis. Parce que je crois que chaque être humain a besoin de rencontrer ce Dieu-là de cette manière-là, de comprendre qu'on est aimé et que ça va changer nos vies.
Gilles Gazer, je rappelle que vous êtes pasteur dans l'église évangélique de Chablecroix-Aigle et que vous venez de publier « Un mois pour aimer l'essentiel » aux éditions BLF. Merci d'être venu en direct pour nous présenter ce livre.
Avec plaisir.
Donc si vous souhaitez retrouver cette émission et bien d'autres diffusées sur Radio R, vous pouvez vous brancher sur notre site radio-r.ch et vous allez sur la rubrique « Podcast ». Merci aussi à Erol. Welcome back, Erol, après ton accident. Merci d'avoir assuré la technique ce matin. Excellente suite de journée à chacune et à chacun.
Un air d'actu avec Serge Carrel.